France Inter. .fr.
Salut les amis de La Cosmopolitaine, une émission en partenariat avec le mensuel Transfuge qui a choisi le camp de la culture. Cette émission, vous le savez, est chroniquée par Marie-Madeleine Rigoupoulos et Laurent Bourdon, réalisée par Michel Soulier, préparée par Fanny Leroy et musiquée par Jean-Baptiste Audibert.
Cosmopolite. Cosmopolitaine.
Je m'appelle Francis Ford Coppola.
Amy Almeida.
Valérie Gromagno.
Marc Bellof.
Cathy Rosenthal.
Dario Fo. Patrick Chamoiseau.
Laurent Pamon. Chérine
Daerbes. Je suis l'invité de Cosmopolitaine.
Paulin Jacques.
Au cinéma, il se passe encore et toujours du nouveau. Dans Bella e Perduta de Pietro Marcello, il y a quelque chose d'unique, d'étrange, de monstrueux dans le sens où ce film ne ressemble à aucun autre. C'est l'histoire d'un homme et d'un buffle et ça se passe dans le sud, déshérité de l'Italie. Tommaso, un modeste berger, n'a eu de cesse de veiller sur un palais dont la beauté se délite jour après jour. Mais à sa mort prématurée, Polichinelle, le demi-dieu qui entretient le dialogue entre les morts et les vivants, émerge des profondeurs du Vésuve afin d'accomplir la dernière volonté du berger, prendre soin d'un jeune buffle promis à l'abattoir. Et les voici tous deux, l'homme et l'animal, qui, tout en cheminant du sud vers le nord, dévisent de choses et d'autres, la beauté de la nature, les dangers qui la menacent, et la disparition possible du monde paysan traditionnel. Sublime, forcément sublime, Bella e Perduta, primée dans Main Festival, sort en salle le 1er juin et son auteur, Pietro Marcello, que je salue. Buongiorno, Pietro Marcello. Et merci mille fois d'être venu en personne et en direct nous parler de votre film. Mais tout de suite, nous allons commencer par une dame, une belle dame. Il s'agit de Samar Yazbek. Bonjour Samar Yazbek.
Bonjour.
Je suis très heureuse de vous accueillir pour votre dernier livre, Les Portes du Néant, qui vient de paraître chez Stock. C'est un livre qui nous dit tout ce qu'on croyait déjà savoir sur la tragédie qui frappe votre pays, la Syrie, et qui nous en dit beaucoup plus, et qui fait de votre livre un témoignage qui restera, je crois, comme un classique dans l'histoire. Samar Yazbek, vous êtes donc née à Latakié, en Syrie. Vous êtes née dans une grande famille bourgeoise, alliée au clan de Bachar el-Assad, des Assad, que vous n'allez cesser de combattre. Est-ce que je me trompe? Vous avez été éduquée un peu dans la soie et les roses. Est-ce que je me trompe?
أنا تقريبا منفصلة عن العائلة تبعي من زمان مستقلة
فما oui,
احنا مختلفين بآراء سياسية حقيقة.
Ma famille est une famille attenante à la famille Assad, mais moi je me suis séparée de ma famille et j'ai des positions politiques très éloignées de ma famille.
Déjà à l'âge de 16 ans, vous avez témoigné que vous étiez une rebelle. Vous avez voulu vivre comme aucune jeune fille bien élevée ne saurait le faire, n'est-ce pas?
أنا كنت بفكر إنه موجود عنا بالعالم العربي أو بالمجتمعات العربية.
Je pensais que dans les sociétés arabes, il y a des femmes qui sont là pour faire la différence. J'étais consciente que les expériences personnelles de quelques femmes sont capables de mener le changement. Et j'ai décidé de faire ma propre expérience et politique, littéraire et sociale.
Non, mais sur le plan personnel, vous avant de travailler à la libération des femmes, vous avez travaillé avec à votre propre libération, puisque vous avez eu le culot de faire un enfant toute seule et de partir à 16 ans pour l'éduquer toute seule. Non ?
في خطا بيتردد هون بالاعلام الفرنسي انه انا بعمر 16
il y a une erreur que qui circule dans les médias français c'est que j'avais eu un enfant à 16 ans en fait je l'ai eu à 25 ans et j'étais mariée
عملتها ضمن الاستقلال الاقتصادي او قرار الزواج بعيد عن المؤسسة الدينية
ما ديسيزيون ايتي دو فير ان مارياج سيفيل كي انتردي دون لو موند عرب مي جو لي فيت ان مارج دو توت لي تراديسيون كي سيركولي
vous voyez Samar vous êtes déjà comme la passionaria espagnole vous êtes entouré d'une légende vous créez déjà la mythologie et c'est très bien parce qu'au fond, ça vous protège, Samar Yazbek, et vous avez absolument besoin d'être protégé contre les gens de votre pays qui vous ont condamné à l'exil et qui vous traquent. Et vous, il me semble que vous êtes un petit peu d'une intrépidité un peu folle quand même. Ici, en exil, vous n'avez eu de cesse de retourner clandestinement dans ce pays pour nous décrire cette tragédie, les oppositions, la guerre civile et toutes ces populations bombardées jour après nuit. Les Portes du Néant, c'est, je le disais, un livre exceptionnel. Et voilà ce qu'en pense Marie-Madeleine Rigopoulos.
Il était une fois une femme au cœur de Lyon. Elle avait rêvé d'une révolution comme un éveil à la démocratie. L'histoire ne lui avait donné que l'antichambre du chaos. La Lyon, qui avait manifesté pacifiquement en 2011 contre le régime de Bachar al-Assad, bat alors en retraite en prenant le chemin de l'exil. Mais sa fille à l'abri, l'instinct de survie laisse rapidement place à la combattante, la femme de lettres et journaliste profondément attachée à son pays, dont l'histoire avait, en d'autres siècles, répandu tant de lumière sur le monde. La voilà donc rampant sous les barbelés des frontières des hommes entre la Turquie et la Syrie, dans l'espoir d'aider les victimes, mais aussi de préparer les fondations d'une nouvelle ère en renforçant la constitution d'un état de droit laïque. Aider aussi plus spécifiquement les femmes, dont les droits ont fait un bond en arrière de 2 siècles en installant des structures via une association permettant l'éducation des enfants à domicile. À travers 3 allers-retours au cœur de l'enfer, la Lyonne devenue Sherazade constate la terreur et la désolation et refait le parcours à travers les témoignages recueillis de ceux qui a mené son pays d'une révolution pacifique à la terreur de l'État islamique. Enfant au corps déchiqueté, le désespoir dans les yeux et le sourire aux lèvres, souvenir de viol et d'humiliation, conviction religieuse et désir de pouvoir, nihilisme dans son expression la plus violente, la conteuse nous raconte un pays en proie à la guerre civile, religieuse et idéologique, où les femmes, les enfants et les plus faibles payent de leur vie la folie meurtrière des hommes dans l'indifférence générale. Mais elle nous dit aussi la soif de vie et le besoin de se confier de ces femmes qui survivent sous les bombes, qui survivent à la mort des êtres chers mais continuent de croire en un avenir meilleur. Elle dit leur extraordinaire capacité de résilience, celle de renaître de leurs cendres encore et toujours. Elle dit le rire, présent à chaque instant au milieu du chaos. Elle dit le courage, mais aussi la sagesse, celle de savoir se taire et maîtriser ses colères. La seule fiction de cette histoire est celle dans laquelle vit le lecteur, loin de toutes les réalités meurtrières du monde, loin de la Syrie. Ce livre n'est pas un livre, c'est un matériau vivant. Chaque page palpite des battements de cœur d'une femme qui a refusé de se soumettre à une fatalité morbide. Chaque mot porte le souffle de vie de ceux qui combattent la mort au quotidien. Chaque phrase est une frontière traversée. Vous jurez de raconter au monde entier ce que j'ai à vous dire ? Samar a juré, et ce que cette jeune femme âgée de 20 ans avait à nous dire fut rendu au monde.
Samar Yazbek, c'est bien dommage que vous ne fassiez pas plus de progrès en français, parce que, voyez-vous, je pense que la chronique de Marie-Madeleine Rigopoulos vous aurait rendu heureuse.
Certainement.
Moi, je me pose une question à votre sujet, Samar. Oui. Déjà, dans votre pays, après la parution d'un texte qui s'appelait « Feu croisé », qui a été primé et qui vous a valu toutes sortes de menaces, de persécutions, on vous a même arrêté à un moment donné pour vous emmener voir en prison comment on torturait les réfractaires au régime. Vous partez en exil, et là, en exil, qu'est-ce que vous faites ? Vous décidez de revenir au péril de votre vie, dans ce pays, poussé par le désir de revoir votre pays, la nostalgie, mais surtout poussé par le désir de témoigner. Est-ce que vous pensiez à votre fille que vous laissiez à Paris pendant que vous receviez des pluies de bombes, Samar ?
الحقيقة لازم أحكي شيء مهم كتير إنه.
La raison importante qui m'a poussée à partir en 2011, c'était pour protéger ma fille. Et en France, où elle est en sécurité, j'ai décidé de rester. Parce que moi et les autres, nous croyons que dans les régions libérées par Assad, que nous étions capables de les reconstruire. C'était une question d'éthique. Nous avons quitté les gens qui ont quitté à cause de la révolution parce que nous étions poursuivis par les services de sécurité. Et je suis retournée après avoir mis ma fille à l'abri. Je n'avais aucun problème face à la mort. Le problème le plus grave aurait été que moi, je reste en sécurité et que je ne puisse pas rester. Notre lutte contre Assad était une lutte pacifique pour démocratique, mais il n'était absolument pas question qu'il y ait Daesh et tous les djihadistes. Alors maintenant, je suis revenue pour tenter de construire un État laïque, un État de droit, et pour être un témoin et une part de ce qui se passait, pour écrire et témoigner de ce qui se passait. C'était mon rôle de témoin, c'était mon rôle d'écrivaine, de journaliste, d'appartenance à la Syrie, et je ne pense pas du tout aux bombes et je n'avais aucune peur quand j'étais là-bas.
Mais en même temps, comment est-ce qu'on peut supporter le fait ? Vous arrivez dans un village qui subit des bombardements, vous discutez avec les gens, les femmes, elles pleurent leurs enfants, et là-dessus, vous repartez. Et vous savez peut-être, c'est ce qui produit que lorsque vous repasserez par là, 3 ou 4 jours, une semaine plus tard, beaucoup de ces gens-là seront morts. Comment on supporte ça ?
Ce qui est arrivé est plus horrible. Les gens qui étaient avec nous mouraient. Nous étions bombardés, les femmes et les enfants aussi. Et nous, le groupe, les activistes de la société civile, et nous devions jouer le rôle de secouristes, de porter les corps des femmes et des enfants déchiquetés. Au moment de la mort, à l'instant de la mort, on est habité par une très grande force parce que on est en train d'aider les autres, on devient quelqu'un d'autre, on ne pense plus à soi. Et je m'étonnais moi-même comment, dès que les bombes arrêtaient, je me considérais comme déjà une autre personne. Je courais par là, j'écrivais par là, je portais les enfants, on aller vers les lieux de bombardement, il y a une force immense qui nous habitait. Ce n'est que plus tard qu'on est complètement détruit, on est complètement effondré. Mais à l'instant crucial, à l'instant critique, je suis venue vers eux pour les aider, pour les secourir. Et cela arrivait de manière tout à fait naturelle.
Mais alors, ce que vous décrivez aussi, c'est que c'est cette espèce, je ne sais pas, d'espérance, de joie quand même, peut-être le propre de l'être humain, c'est que tout de suite après la mort, les bombardements, les cadavres qui gisent, il y a des éclats de rire, il y a de la joie.
Ouais, mais... دائما ليكي في مسألتين كتير كتير أنا لمستهم بإيدي المسألة الضحك.
Il y a deux questions très importantes. La première, c'est le rire. Et la deuxième, c'est l'amour au cœur de la mort. Quand j'étais avec les combattants, ils parlaient et riaient. Et moi, j'étais sidérée de les voir rire. Et ils me répondaient qu'on est obligé de rire. C'est une manière de se battre. Et les femmes, il y avait des histoires d'amour à n'en plus finir pendant ces périodes intenses. C'est la résistance à la mort par le rire et par l'amour. Aslamtu lissukhouri wallah.
Le vieux pays. J'ai livré au roc et aux échos mes emblèmes aux cris étranglés. Je les ai livrés à la forteresse de la poussière, à la fierté du refus et de la défaite. Il ne me reste que toi, ô mon vieux pays, ô secret Adonis.
لم يبق لي إلاك يا بلادي القديمة أيتها الأسرار لم يبق لي إلاك يا بلادي القديمة أيتها الأسرار أيتها الأسرار
J'écoutais les hommes dans la maison, leur voix me parvenait assourdie. La conversation s'éternisa. Elle portait sur le front Al-Nosra et son réseau médiatique Al-Manara, El-Baïda, le phare blanc, qui lui permettait de diffuser ses actions kamikazes et ses tueries. J'entendis Mahan déclarer « Ne croyez pas que ce puissant réseau financier et ce débarquement de djihadistes soient arrivés de façon spontanée. Ce genre de choses n'arrive pas par hasard. Il n'y a rien de hasardeux ou d'accidentel dans notre appauvrissement, notre manque d'armes. Ne désespérons pas pour autant. » Ils se mirent à chuchoter. Je devinais qu'ils parlaient de moi car tout de suite après, Mahan me cria « Vous avez besoin de quelque chose, Madame Samar ?» Je réussis à répondre « Non, merci. » Quand je rejoignis les hommes, la discussion portait sur l'approvisionnement de carburant et d'électricité dans les villages où l'eau et le courant avaient été coupés. Un des combattants critiquait le fait que les écoles avaient été fermées et réquisitionnées, certaines pour héberger des déplacés, mais beaucoup pour servir de base militaire. Abou Wahid les pressa de trouver une autre solution. Pendant que nous discutions, des combattants débarquèrent, d'autres partirent, car la pièce était trop petite pour contenir tout le monde. Ils s'en prirent au Conseil national, à la coalition et à l'opposition officielle, prétendant que les votes étaient achetés au bénéfice de ceux qui tiraient les cordons de la bourse. Les portes du néant, page 123.
Cosmopolitaine, Paula Jacques.
Samar Yazbek, lors de vos trois retours en Syrie, Vous y allez surtout parce que vous avez l'intention d'aider les femmes à s'organiser, à obtenir plus de droits. Et vous créez une association nommée Women Now for Development. Les femmes maintenant pour leur développement. Mais outre les femmes, vous rencontrez beaucoup d'hommes avec lesquels vous parlez. Des hommes qui n'ont pas l'habitude de voir les femmes se mêler à leur conversation. Hein. Il y a évidemment, il y a des opposants à ça. Il y a aussi des djihadistes avec lesquels vous discutez. Comment ça se passe? Comment une jeune femme blonde, affranchie, peut entretenir une conversation avec des grands chefs, soit de la révolution, soit des djihadistes?
Je me déguisais un peu.
Il faut le dire.
Je portais une abaya, une cape, et je m'habillais comme leurs femmes s'habillaient, et je portais un voile, un niqab. Et les, ils ne connaissaient pas tous mon identité. Certains me connaissaient, et en début 2012, ils me protégeaient. Mais quand il y avait les djihadistes, c'était devenu très difficile. Ils savaient que j'étais journaliste et écrivaine et que j'étais venue de l'extérieur, mais je sentais qu'il y avait un certain défi de discuter avec eux et de débattre avec le prince des Ahrar Sham. Ce sont des djihadistes. Oui, je lui disais, je lui parlais des écoles et qu'il fallait enseigner aux enfants. Et alors, il est devenu tout rouge et il était furieux que je lui dise de que faire avec les enfants. Il me défiait et il me disait que je voulais qu'il voulait tuer les Alaouites. Et moi, je, à ces moments-là, j'avais peur. Réellement. Et j'essayais de leur rappeler que vous êtes levé contre Assad et que vous avez abouti à une guerre religieuse. Mais je savais que c'était dangereux, mais je voulais être au fait réellement. Et je savais que je prenais des risques, mais je voulais absolument voir, témoigner. D'autres brigades avaient un discours plus patriotique et disaient que nous étions tous des Syriens et nous n'avons pas de problème religieux. Mais en tant que femme, ils n'acceptaient pas que j'étais avec eux sur la ligne de front et que j'étais avec eux dans les débats et dans les discussions et que je n'appartenais pas à leur milieu, à leur famille. Aussi, je sentais qu'il y avait quand même un très grand défi d'être tout le temps avec eux de cette manière-là.
Samar Yazbek, comment comprendre, comment faire la part entre les bons, les méchants, les loyaux, les fanatiques, ceux qui veulent vraiment abattre le clan Assad, et les autres, les milices, les meurtriers. Tous ces gens, finalement, on ne sait pas très bien, ils veulent tous abattre le régime. Mais en même temps, pour des motifs tellement différents, comment est-ce qu'on s'y reconnaît? C'est une espèce de chaos permanent, quoi, même au niveau politique.
Il est important de dire que mon livre se termine fin 2013. C'était le début du chaos, réellement. À cette époque-là, j'avais des liens quotidiens avec les combattants et avec les gens. Et j'étais très précautionneuse. Je faisais très attention. Il y avait à l'époque l'armée libre et c'était la résistance armée contre Assad. Il n'était pas entièrement mort à ce moment-là. Mais moi, je me déplaçais avec eux parce que eux, on avait les mêmes convictions, la Syrie démocratique, civique et libre. Et je faisais très attention à ne pas dépassé certaines lignes. Et les fois où je les ai dépassées, je me suis sentie en danger. Et à certains moments, j'étais moi-même en danger. Et lorsqu'ils ont kidnappé le journaliste polonais Martin Snyder, j'étais avec lui dans le même bureau. Et maintenant, je me demande j'ai vécu par pur hasard, si j'ai survécu.
Vous avez survécu par pur hasard. Samar Yazbek, il y a autre chose qui m'a frappée. Souvent, parmi ses amis que vous rencontrez, qui se battent contre les djihadistes, contre Assad, qui n'ont plus rien, on a tué leurs enfants, on a détruit leur maison, mais tous vous disent « Nous allons vaincre, nous sommes sûrs de nous, nous allons gagner ».
Ça, c'est la puissance du rêve. C'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, ils étaient convaincus de pouvoir poursuivre, de vouloir aller jusqu'au bout. Mais l'entrée des djihadistes, l'installation de Daesh, l'intervention de l'Iran et de la Russie, la Syrie qui est devenue un terrain de lutte en Syrie. Et c'est, moi j'appelle cela la lutte des néants en Syrie. Toutes ces luttes-là, il y a quand même des gens, des Syriens, qui continuent à rêver, qui continuent à effectuer des actes patriotiques. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont perdu leur rêve parce qu'ils n'ont pas eu de soutien.
Mais enfin, l'avenir est là quand même. Vous nous le dites à chaque page de votre livre, Samar Yazbek. Merci beaucoup. Les portes du néant, c'est un témoignage, un récit. En même temps, c'est un portrait de vous aussi, en creux, en quelque sorte. Une femme qui ose défier tout, la mort, la censure. Et votre livre est traduit de l'arabe par Rania Samara, ici même. Merci Rania d'avoir traduit les propos de Samar. Il y a une très belle préface de Christophe Boltanski et votre récit exceptionnel paraît chez Stock. Merci Samar Yazbek.
Merci.
Shukran.
Shukran.
Cosmopolitaine.
Esiste un ministero nascosto per la difesa della natura dagli esseri umani, un genio materno di illimitata potenza, alla cui cura gelosa e perpetua è affidato il sonno in cui dormono quelle popolazioni.
Un extrait de votre film Bella e Perduta. Pietro Marcello, merci beaucoup de venir nous en parler en direct. Je dois dire que merci. Laurent Bourdon et moi, on a été très, très secoué, très surpris et très captivé par votre film. Alors, on ne vous connaît pas beaucoup, hein, c'est un troisième film. Qui êtes-vous? Où êtes-vous né? Avez-vous fait des études de cinéma, Pietro Marcello?
Moi, j'ai étudié la peinture.
J'étais
pas si doué, donc c'était un repli heureux, le cinéma.
Alors, pourquoi le cinéma? Ça paraît évident quand on s'intéresse aux formes picturales, les images?
Oui, depuis
tout petit, j'ai eu la passion pour l'aquarelle. Après, j'ai étudié l'histoire de l'art, la peinture. Mais j'ai compris que j'étais pas si doué que ça et j'ai choisi le cinéma.
Est-ce que vous êtes né dans le sud, comme les personnages de votre film? Italiano.
Oui,
j'ai grandi à Caserta.
J'ai grandi dans
les jardins du palais royal de Caserta.
Che una sorta di Versailles.
Qui est une sorte de Versailles, très semblable à Versailles.
Ha avuto un'infanzia molto bella.
J'ai eu une enfance très belle.
Et votre père était jardinier?
Non, mio padre era marinaio.
Mon père était marin.
Et pourquoi vous avez grandi? Et pourquoi vous avez grandi dans les jardins somptueux de cet endroit-là?
Mes parents vivaient là, donc j'ai grandi comme ça,
j'ai une enfance très belle.
Donc vous avez eu, petit, un rapport profond avec la nature, hein?
Mais aussi avec la beauté,
parce que c'est un lieu plein de beauté.
Alors, Laurent Bourdon, Bella et Perduta, ça sonne tellement bien. Moi, je me suis dit un jour, si j'ai deux chatons, je vais les appeler Bella et Perduta.
Mais ça vient pas de Verdi.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, c'est très joli,
hein?
Oui.
Bella et Perduta, mais en fait, c'est un titre assez mélancolique, Laurent.
Oui, mais enfin, quand même, c'est ce que vient de dire Pietro Marcello et nous éclaire un petit peu sur son film, parce qu'effectivement, chaque image est un tableau, quasiment. Hein. Ça faisait longtemps que le cinématographe ne nous avait pas offert semblable merveille, Bella. Et Perduta est un film d'une beauté envoûtante, passant constamment de la réalité la plus contemporaine et prosaïque au conte de fées le plus merveilleux. Nous sommes donc à Carditello, pas loin de Naples, et nous faisons la connaissance de Tommaso Sestrone, comme ça qu'on dit, un simple berger qui a décidé de consacrer sa vie à la sauvegarde d'une œuvre d'art. En plus de ses moutons, bénévolement et même assez frais, cet homme jeune encore, la cinquantaine, solide, robuste, dur à la tâche, mais dont le visage trahit une âme pure, lutte contre la cupidité des hommes qui, sous l'emprise de la Camorra, la mafia napolitaine, transformèrent un superbe palais de style néoclassique, construit au XVIIIe siècle sous le règne des Bourbons, en une vaste décharge public. Pietro Marcello nous propose donc une rencontre avec cet homme, pour le moins hors norme et ami des animaux. Un jour, en effet, il découvre dans un champ un bébé buffle abandonné, entravé, laissé là pour que mort s'en suive. Sans un mot, il le défait de ses liens, l'emporte dans sa ferme, lui trouve à manger et le baptise Sarcapone. Mais une bien triste réalité va venir bouleverser le tournage de ce documentaire. D'une manière absolument sidérante, le bon Tommaso, celui que l'on surnomme l'ange de Carditello, meurt. Mais il meurt vraiment, même si, comme dans un conte, il meurt le jour de Noël. D'autres que Pietro Marcello auraient remisé micros et caméras, estimant que le décès prématuré du héros de son film en signait du même coup l'interruption définitive. Que nenni ! Pietro Marcello, lui, va modifier son projet et donner naissance à cette œuvre unique, réaliste et merveilleuse à la fois. Mais là, il faut que je vous dise que je ne vous ai pas tout dit. En fait, Bella e Perduta s'ouvre sur un prologue qui nous fait pénétrer au cœur d'une étrange confrérie très ancienne et assez mystérieuse, celle des Polichinelles. Oui, les Polichinelles qui, avant de devenir sociétaires de la Commedia dell'arte, étaient chez les Étrusques des demi-dieux capables de faire parler les animaux et de dialoguer avec les morts. C'est ainsi que débarque au cœur de ce documentaire et le plus naturellement du monde, l'un de ces Polichinelles. Sachant écouter les morts, celui-ci découvre la volonté post-mortem de Tommaso emmener Sarcapone plus au nord afin qu'il échappe au funeste destin que les régions pauvres d'Italie réservent à cet animal jugé inutile, au contraire de sa moitié, la bufflone, sans le lait de laquelle adieu ricotta et mozzarella. Ce n'est pas tout. Suite à une demande de Polichinelle très sérieuse, Sarcapone est à présent doué de parole. et peut donc évoquer sa rude existence, oui, son existence terrestre est si rude qu'il avoue regretter de ne pas être né sur la Lune. C'est alors que commence un étonnant road movie pédestre, au cours duquel, curieusement, il nous apparaît absolument évident et parfaitement avéré que les arbres touchent à l'au-delà, que certaines fontaines sont magiques, et bien sûr que les animaux parlent comme vous et moi. Avec ce film très rare et très fort, Pietro Marcello parvient à ouvrir une modeste fenêtre sur l'infinie complexité du rapport de l'homme et de la nature, plus précisément de l'homme et de l'animal. L'homme qui a une âme, l'animal qui n'en a pas. À moins que ce ne soit le contraire, comme le pense Paula depuis longtemps. N'est-ce pas ?
Je pense quoi, là ? J'ai perdu le fil.
C'est agréable.
Que les animaux sont doués de l'âme qui manque aux hommes.
Voilà.
À certains hommes, Laurent. Attention.
Ah, bon.
D'accord. Merci beaucoup, Laurent, pour cette chronique. Pietro Marcello, donc, vous partez d'un personnage légendaire qui existe de son vivant, vous le filmez. Et ensuite, votre projet dévie vers cette idée extraordinaire du polichinelle qui va surgir du Vésuve. Mais moi, je me pose une question sur Tommaso, donc, qui a existé. Pourquoi est-ce que cet homme simple, modeste, qui converse la plupart du temps avec ses buffes, qui est un berger, pourquoi est-ce qu'il se prend d'affection pour les vestiges de la magnificence des seigneurs de cet endroit ? Pourquoi ?
Alors, innanzitutto il film doveva essere ben altra cosa perché doveva essere un viaggio in Italia.
Ce film devait être tout autre chose au départ, ça devait être un voyage en Italie.
Et Carditello, l'angelo di Carditello doveva essere un episodio del film.
L'ange de Carditello devait être un épisode du film.
Et il film est stratificato d'imprevisti
perché poi. Il film è fait d'imprévus successifs.
Durante le riprese perderemo
Durant le tournage, il y a eu la perte de Tommaso.
Tommaso è morto a 49 anni, era un uomo molto forte.
Il est mort à 49 ans, c'était un homme très fort.
È stata una morte abbastanza.
Ça a été une mort assez
inquiétante.
Inquiétante.
Et qu'encore faccio fatica à comprendre.
Et que encore aujourd'hui j'ai du mal à comprendre.
Vous pensez qu'il a été assassiné? Assassinato.
Non, assolutamente.
Parce qu'il dérangeait beaucoup la Camorra quand même à cet endroit.
Una morte probabilmente misteriosa.
Ça a été une mort probablement mystérieuse. Parce que je le répète, c'était un homme qui allait bien, c'était un homme fort.
Non, caso che la Reggio è stata acquistata.
Il est mort pendant que le palais royal a été acquis par l'État.
Oui. Et comment vous est venue l'idée donc d'exécuter une dernière volonté de Tommaso, qui serait donc de sauver ce buffle qu'on veut abattre parce qu'il est improductif? Ça, c'est vous qui avez inventé cette idée-là, qui fait venir Polichinelle du Vésuve pour sauver ce buffle.
Ma quello di Pulcinella è stato un congegno finzionale.
Abbiamo bisogno cette idée de Pulcinella, c'était un moyen de trouver un vecteur pour continuer l'histoire.
Oui.
Sì, ma nel caso di Tommaso, io sono rimasto Tommaso, colpito
je,
da Tommaso.
J'ai été frappé par Tommaso, parce que pour moi c'était.
Rappresentava un po' l'uomo rivolto.
Rappresentait l'homme révolté de Camus.
Oui. La rivolta di Sparta.
La révolte.
E la rivolta dei semplici.
La révolte des simples.
Tommaso era un semplice pastore.
Tommaso était un simple berger.
Che è diventato il custode di questa regia.
Che gardien de ce palais royal qui pendant tant d'années qui a été violenté, humilié.
Era un luogo
abbandonné.
Legato al cinismo degli italiani.
Ça c'est lié au cynisme des Italiens.
Probabilement.
Au cynisme, à l'indifférence plutôt.
Una bellezza ancestrale.
C'est une beauté ancestrale.
Risale alla sua storia.
Pour vous, Pietro Marcello, ce que vous nous dites de l'abandon de ce palais, finalement c'est une mise en accusation du rapport de l'Italie à tout son patrimoine culturel, aux belles choses qui disparaissent, dont on ne prend pas soin, va dire, toutes ces terres vont plutôt aller à l'agriculture extensive, etc. C'est un peu une accusation que vous faites avec ce film.
Probablement
probablement c'est vraiment ça.
Questa bellezza,
cette beauté
è così ricca di bellezza.
L'Italie est tellement riche de beauté que
questa bellezza ci ha reso cinici probabilmente.
Que toute cette beauté nous a rendu cyniques probablement.
Carditello in qualsiasi altra parte d'Europa diventava un patrimonio dell'UNESCO.
Dans n'importe quelle autre partie de l'Europe, ça devenait patrimoine de l'UNESCO.
Ça nous fait tristement penser à la Grèce qui est en train de vendre le Parthénon, etc. C'est la même chose.
Est-ce que le rêve de Tommaso s'est réalisé maintenant? Est-ce qu'il y a des visiteurs qui peuvent venir voir ce palais, faire rentrer un moment? Il dit que vraiment il rêve que d'ouvrir les grilles à tous ceux qui voudraient voir ce palais. Est-ce qu'aujourd'hui, si vraiment il a été acheté par la municipalité, c'est ça, il a été préempté?
Ma ora è stata la Reggia di Cardicello è stata acquistata dallo Stato.
Il Palais Royal a été racheté par l'État.
Ma tutt'oggi non si sa che cosa
diventerà. Mais aujourd'hui on ne sait pas ce que ça va devenir.
Bisogna considerare che intorno a Cardicello ci sono.
Autour de ce Palais Royal il y a 5 décharges.
Tra le più grandi d'Europa.
Et une qui est parmi les plus grandes d'Europe.
E questo è stato possibile perché l'amministrazione.
Ça c'est possible parce que l'administration l'a rendu possible.
E sono collocate in uno dei territori più
fertili. Dans un territoire qui est un des plus fertiles de l'Italie.
Un
territoire où il y avait 3 récoltes à l'année.
Pardon, à la lueur de ce que vous dites, Pietro, sur donc le consumérisme de l'Italie, cette espèce de machine qui ne pense qu'en profit, où il y a une, ce ne sont plus les artistes qui sont au pouvoir, ce sont les gestionnaires. Le début de votre film est assez intrigant, parce qu'on voit effectivement tous ces polichinelles dans les limbes, dans le creux du Vésuve, et leur vie ressemble, on a l'impression que c'est tiré d'un livre de Kafka, on dirait des clercs de notaire ou des petits fonctionnaires qui sont menés à la baguette. Et ceux-là, ce sont pourtant des demi-dieux. Pourquoi vous nous montrez donc cette partie légendaire là de la vie souterraine des polichinelles comme une espèce de bagne, en fin de compte, le bagne de la mort?
Si, diciamo, inizia con questo, questa sorta
di ministero, avec cette sorte de ministère,
carcere,
prison, où il y a ces hommes sans conscience qui ont besoin de rejoindre un libre arbitre à travers un ordre.
Notre
Pulcinelle devient un berger, donc il rejoint son libre arbitre.
Voilà, il s'incarne dans la personne morte de Tommaso, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Voilà. Reincarnation. Si, non.
Il rejoint le libre arbitre, mais il ne veut plus communiquer avec le buffle. Si on pense à la Commedia dell'arte, quand on pense à Pulcinelle, mais c'est une sorte de Caronte qu'on retrouve sur les tombes étrusques et romaines.
Ricordo una volta, ma non quando. Il tempo sai ti lascia andare, perché il passato fa male. Forse è il momento di partire. Saprai non perdere il cammino. Saprai vedermi anche nel buio. Ti cercherò, fatti trovare. Ti aspetterò, non mi abbandonare. Di notte tornano i tuoi occhi, cieli azzurri dentro il mare. Parlavi, ma non sentivo voci. Parole perse nel profondo. Saprai non perdere il cammino. Saprai vedermi anche nel buio. Ti cercherò, fatti trovare. Aspetterò, non mi abbandonare. Ti cercherò, fatti trovare. Ti aspetterò, non mi abbandonare.
Pietro Marcello, ce que j'ai vraiment adoré dans votre film Bella e Perduta, c'est le voyage, c'est l'équipé de l'homme, enfin de Tommaso Polichinelle, on ne sait pas, c'est un condensé des deux, et du buffle. Le buffle, il chemine côte à côte à travers les paysages splendides, ils se comprennent à merveille, et évidemment, tout d'un coup, ce buffle qui, dans cette Italie, ne représente rien, il n'est pas productif, il ne sert à rien, on va le tuer. Et ça m'a évidemment fait penser aux mémoires d'un âne de la comtesse de Ségur, où c'est là aussi c'est un âne humble, écrasé de lourdes charges, battu et résistant, qui prend la parole. Là aussi, dans votre film, le buffle prend la parole. Et ça, j'ai trouvé merveilleux, parce que tout d'un coup, on sent que c'est à travers leurs paroles, l'homme et l'animal conservent avec la nature, en fait.
Nel caso di Sarchiapone.
Dans le cas de Sarchiapone, le jeune buffle. C'est parce que Sarchiapone est devenu orphelin plusieurs fois.
La prima volta quando viene allontanato dalla madre.
La première fois quand il a été retiré de sa mère. Et jeté dans un fossé.
Quando
Tommaso meurt.
Viene separato da Pulcinella.
Et quand il est séparé de Pulcinella.
Nel caso di Sarchiapone.
Dans le cas de Sarchiapone.
Sarchiapone è un mite,
c'est un doux, c'est un animal non violent, ils sont végétariens.
In passato, come racconta bene Carlo Levi,
quand le raconte bien Carlo Levi, le monde paysan avait un équilibre. Les Italiens étaient tous des paysans, il n'y avait pas de classe moyenne.
Non esisteva neanche una vera e propria
borghesia. Il n'y avait pas de bourgeoisie.
Et le buffalo era un amico dell'uomo,
était un ami de l'homme, il travaillait dans les champs.
I romani creavano i trattori, marciando, creavano le consolari.
Il faisait les routes, etc.
Ma oggi nell'industria.
Mais aujourd'hui, c'est une industrie productive de mozzarella, de buffle,
di bovini.
Et donc on n'a plus besoin du buffle. Et par ailleurs, le buffle, à la différence d'un veau, croît lentement.
Il ne grossit pas vite.
Il a besoin de 2 ou 3 années pour avoir vraiment une masse. Alors qu'un veau, après 6 mois, il est énorme.
Mais comment comprendre, Pietro Marcello, peut-être que vous ne pourrez pas me répondre, mais après tout, on engraisse aussi les bœufs qui ne font pas non plus de petits ni de lait pour les manger. Pourquoi est-ce qu'on tue donc les buffles au lieu d'essayer de les engraisser? Je ne sais pas.
Parce que ça ne convient pas pour les éleveurs.
Et non conviene neanche tenerli in vita perché
parce que ça ne convient pas de les garder en vie.
Non si mangia quella carne,
parce qu'on ne la mange pas, cette viande. Altre, même si cette viande est meilleure pour le cholestérol, mais bon.
Et ma anche per la riproduzione, perché
mais aussi pour la reproduction.
Artificiale sono
avec l'insémination artificielle, ils sont.
E questo è uno
dei motivi
che avveniva molto di più prima, perché ora ci sono più controlli.
Maintenant, il y a plus de contrôle, ils sont abandonnés dans les fossés.
Morivano d'inedia, non so.
Mouraient de faim, comme ça.
Mais, alors, ce buffle philosophe.
Tommaso salvava questi animali, portava questi
et pardon,
animali
Tommaso a sauvé.
Et Tommaso donc sauvait ces animaux et les amenait à l'intérieur de ce palais royal. Oui. Et on dit justement que la mozzarella de buffle est née véritablement ce palais royal.
Perché ai tempi dei Borboni era una fattoria modello.
Parce qu'à l'époque des Bourbons, c'était une ferme modèle où il y avait des chercheurs, même étrangers, qui venaient pour créer un grand laboratoire.
Ah, c'est ça, ils faisaient des expériences scientifiques pour améliorer. L'élevage des bovins, etc. Mais alors, ce buffle philosophe et aussi humble finalement que Tommaso fait montre d'une énorme sagesse dans ce film, c'est ça qu'on aime. C'est-à-dire qu'il comprend mieux que quiconque le rapport de l'homme à la nature, la simple jouissance d'un clair de lune posé sur la rosée, et il constate, tout en marchant avec Polyphénil, à quel point le sud aussi commence à ressembler au nord des machines, des industries, etc. Pietro Marcello.
Si, diciamo che questa è una critica ben fatta da.
Disons que c'est une critique qui a été faite déjà par Pasolini, hein, dans le passé, la transformation du pays.
Oui.
Moi, je suis amoureux de mon pays. J'ai fait aussi un film sur les trains de nuit, j'ai raconté une ville bord de mer.
Et
comment les Italiens ont changé aussi. Reste, même s'ils ont changé, ça reste mon pays natal.
Alors, vous savez aussi, vous me faites penser, ce film a fait un petit penser aussi à celui de Les Merveilles. Vous vous souvenez, Laurent Bourdon, d'Alice Rochevater, où elle décrivait justement un milieu paysan en autarcie, des apiculteurs, et tout d'un coup, la télé arrive, et tout le monde se met à rêver de télévision, de consumérisme. C'est ce qui se produit dans le sud de l'Italie.
Oui, je connais bien Alice.
Michelangelo Faramartino, siamo molto legati.
Michelangelo, je suis très, très lié à eux. À eux et j'ai décidé de raconter une Italie, parce que plus personne ne raconte un arbre en fait, les choses simples, tout va très vite, on n'a plus le temps de s'arrêter pour penser.
Oui.
Il y a une tendance à raconter notre paysage, justement.
Et en plus, ce qui est très beau, c'est que maintenant, avec toutes les séries américaines, il faut que ça aille vite, vite, là. Vous prenez, le film prend la lenteur très belle pour nous permettre d'admirer la nature, pour écouter les conversations de l'homme et du buffle. Et cette lenteur-là aussi ajoute à la force du film. Vous êtes d'accord, Laurent ?
Je suis entièrement d'accord. Et peut-être on peut, là, pendant les dernières minutes, parler. Il faut sortir un petit peu du film. Il faut aller le voir. C'est vraiment un film à voir, qui a été réalisé, vous parliez du buffle philosophe, par un cinéaste philosophe et qui a des idées absolument incongrues et pas du tout politiquement
correctes. Philosophe
est
bouclé comme un pâtre grec, hein. Je précise pour les auditeurs.
Vous trouvez bouclé? Ah bon, oui peut-être. Mais en tout cas, il a dit, ce monsieur qui est en face de nous, Pietro Marcello, on ne peut plus qualifier le cinéma de 7e art, il a perdu ce statut avec l'arrivée du son. Vous avez dit ça?
Ah
c'est
non.
Vrai ou pas?
Ah
c'est
non.
Vrai? Si, c'est
Véro.
Vrai. Ah, moi, j'adore cette phrase.
Non, non,
c'est
réactionnario. Formidable.
Et vous auriez pu faire ce film absolument, peut-être, muet.
Non, vous n'êtes pas contre le progrès du son, quand même, Pietro.
Non, nel senso. Amo il cinéma,
j'aime
tout
le cinéma,
cinéma,
j'aime tout le cinéma. J'ai une formation de cinéphile. C'est une critique que je fais à l'invention du sonore parce qu'il a été au service des dictatures au départ.
Merci. Tout ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est un film à voir exceptionnel. C'est une expérience de cinéma, Laurent. On a
et que tous les autres films de Pietro sont disponibles sur Internet, car vous pensez que c'est comme ça que ça doit se faire. Voilà, on peut voir gratuitement vos films sur Internet.
Donc, Bella e Perduta, qui a eu 3 prix importants, si je ne me trompe, à Locarno, ou si dans notre grand festival, sort sur nos écrans le 1er juin. Allez le voir sans faute. Et puis, Laurent, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, nous avons un tout jeune cinéaste. Est-ce que vous vous souvenez?
Pas très bouclé, hein, mais.
Si, il est bouclé, franchement. Alors, enlevez vos lunettes, regardez bien. Bon, Laurent, vous vous souvenez de cet entretien avec un maître du cinéma, il y a 2 ans, fatigué, là, Ken Loach qui nous disait non, 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 le cinéma, c'est terminé. Là, je viens vous parler de mon dernier film.
Je ne sais pas, on verra. Il y avait un moment où on est moins bon à ce que l'on fait, à chercher des thèmes, une usure peut-être, le moment de se dire que ça suffit peut-être. Enfin, on verra. Peut-être que quelque chose viendra ensuite.
Paul Laverty, est-ce que vous pensez vraiment que Ken Loach peut vivre sans faire de cinéma?
Ça va dépendre des performances de l'Angleterre à la Coupe du Monde. S'ils arrivent parmi les finalistes, on verra. Mais si ça se termine plus tôt, je peux revoir cette petite étincelle dans ses yeux à nouveau.
Merci infiniment à tous les deux, Ken Loach et Paul Laverty, pour ce magnifique film, Jimmy's Hall. Et je vous attends tous les deux dans 1 an ou plus tard pour un nouveau film.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ça pour dire qu'effectivement il est revenu avec un film Ken Loach et qu'il a obtenu la Palme d'Or à Cannes. Fin de cette Cosmopolitaine. La programmation musicale choisie par Jean-Baptiste Audibert, c'était Abed Adrier, Le Vieux Pays, une chanson sur un poème d'Adonis, Radiohead, Burn the Witch et Pierre Sfaccini, Il Camino. Le film Bella e Perduta est en salle à partir du 1er juin et le livre de Samar Yazbek, Les Portes du Néant, est édité par Stock. Cette émission est disponible à la réécoute et en podcast sur le site France Inter. Et je vous rappelle aussi que si vous voulez assister à la der de la série Exil au Théâtre de l'Odéon, eh bien ce sera lundi 6 juin ou jamais. Ce sera une soirée consacrée au grand séducteur, libertin, aventurier, escroc, chéri de toutes les cours d'Europe, Giacomo Casanova, avec l'éclairage de Chantal Thomas et les textes lus par Christophe Brault. Pour y assister, il vous suffit de vous inscrire sur la page de l'émission. Dimanche prochain, je recevrai Abba Davessar pour son son roman Madison Square Park, et Christian Delage à propos du film The Eichmann Show, réalisé par Paul Andrew Williams. Après les infos, vous retrouverez Fabienne Chauvière et ses aventuriers. Aujourd'hui, elle reçoit Nicolas Tournard, linguiste